Chapitre 10. Un morne désespoir avait remplacé la dernière illusion que les ouvriers s'étaient faite, et parfois de sourds grondements, précurseurs de l'orage, venaient tout à coup troubler ce calme funèbre qui pesait sur la ville. Les vieux dictons de nos pères, que la patience évoque, n'étaient plus que dérisoires en face d'une telle misère. Comment se persuader que tous les maux ont une fin, quand chaque jour rendait plus effroyable l'horrible dénuement où l'on était la veille ? Et que l'attente ne servait qu'à montrer combien l'homme peut souffrir avant de succomber à ses tortures. Car si nombreux que fussent les morts, on demeurait surpris de les voir relativement si rares. Toutefois, notez bien que c'est la perte des hommes, celle des travailleurs, dont les bras nous manquent, qui seule attire notre attention. Le monde ne se préoccupe pas de la mort d'un vieillard, d'un enfant ou d'un infirme. Et pourtant, quel vide laisse à jamais leur absence dans les cœurs dont elle emporte la joie. Remarquez en outre que s'il faut une somme incalculable de souffrances pour tuer un homme robuste, il en faut bien peu pour le réduire à l'état de maladie incessante, et pour le condamner à traîner désormais une vie de douleur qui le rend à charge à lui-même et inutile pour tous. Les années précédentes avaient été bien dures, et le peuple avait connu tout le poids de la misère. Mais à l'époque dont nous parlons, cette misère s'accroissait de mille tourments. C'était à coups de fouet que le temps avait jusqu'alors chassé les masses devant lui. Et maintenant, chaque lanière se transformait en scorpion, dont le venin s'infiltrait par mille blessures. Burton partageait ses souffrances, et le besoin l'atteignait à son tour. Il avait en vain cherché de l'ouvrage. On lui avait fait entendre que, délégué chartiste, et l'un des meneurs de l'association des métiers, il lui serait plus difficile qu'à tout autre d'en obtenir, au moment où les patrons diminuaient encore le nombre de leurs ouvriers. Il tâcha donc de s'oublier lui-même et s'efforça de conserver son énergie. D'ailleurs, il avait dès l'enfance acquis la faculté de supporter un long jeûne, alors que sa mère cachait une partie de sa nourriture pour la conserver à ses enfants, et que lui, l'aîné de tous, lui disant « Je n'ai pas faim », refusait la part qu'il abandonnait à ses petits frères. Mary prenait deux repas à l'atelier. Cela suffisait pour rassurer le pauvre père, bien que sous prétexte de la misère générale, Miss Simmons eût déjà retranché à ses apprentis le thé qu'elle leur donnait, en vertu de leur convention. Les 3 francs par semaine du loyer de la maison étaient payés par le salaire de Mary, mais c'était à peu près tout ce que gagnait la jeune fille, et il fallut peu à peu se dépouiller des objets qu'on avait tant aimés. Engager le vieux plateau, la boîte à thé, la théière, enfin les couvertures que l'on finit par vendre quand l'été arriva. La chambre s'était dégarnie de ses ornements d'abord, de ses meubles ensuite, et l'indifférence de Burton à cet égard attristait profondément sa fille. Elle aurait voulu qu'il se fît inscrire au bureau des secours, et s'étonnait de ne pas voir l'association des métiers faire quelque chose pour lui. Mais un soir que, les traits contractés, la barbe longue et le visage plus pâle que de coutume, il était assis près de la cheminée sans avoir rien mangé depuis la veille, et que Mary le suppliait de s'adresser à la ville pour avoir sa part de ce qu'elle faisait distribuer. « Je n'ai pas besoin de leur argent, » avait-il répondu. « Qu'ils aillent au diable avec tous leurs secours. C'est de l'ouvrage qu'il me faut, et non pas leur aumône. » Il supportait donc sans faiblesse, mais non pas sans aigreur, les privations auxquelles il était condamné. C'est la bonté d'autrui qui nous rend bienveillants, et personne ne se montrait bon pour lui. Toutefois, l'association des métiers, pensant qu'il était de son devoir de soutenir l'un de ses membres les plus actifs et les plus importants, offrit son assistance à Burton, qui refusa de l'accepter. « Tom Derbyshire, avec ses 7 enfants, en a plus besoin que moi, » répondit-il. « Partant, il y a plus de droits. » Or, il faut savoir que Derbyshire était l'ennemi de Burton, qui le déchirait en arrière, près de qui voulait l'entendre, ce que Burton n'ignorait pas. Mais en pareille matière, nulle considération d'intérêt personnel ne faisait taire en lui le sentiment de la justice. Mary avait perdu sa gaieté, et ses compagnes ne l'entendaient plus rire. Son esprit errait sans cesse de la misère présente à l'avenir brillant, qui, plus que jamais, occupait sa pensée. Et comme nous l'avons dit, c'était moins l'amour de Mr. Carson qui faisait battre son cœur, bien qu'elle fût flattée des attentions du gentleman, que la perspective d'une fortune considérable et de tous les biens que peut donner la richesse. Sally ne manquait pas d'observer, avec sa pénétration ordinaire, les changements que l'inquiétude faisait subir au caractère de Mary, surtout la valeur croissante que celle-ci attachait à l'argent, qui pour elle représentait la vie même. Elle profita de cette disposition toute favorable au riche adorateur pour l'engager à terminer sa conquête, en lui mettant sous les yeux la position où se trouvaient Mary et son père. Mais il craignait, en lui parlant de sa détresse, de blesser la jeune fille, dont il connaissait la fierté. D'ailleurs, il voulait prolonger encore le plaisir qu'il trouvait aux entrevues dérobées, aux promenades du soir, aux douces paroles qu'il lui dirait tout bas et qui donnaient au regard et au sourire de Mary un charme sans pareil, à son visage un éclat sans rival. Puis, il était bien sûr de réussir quand il le désirerait. N'était-il pas lui-même d'une beauté séduisante? Et chaque soir, leur promenade ne durait-elle pas davantage? Hélas, s'il avait connu l'intérieur où la pauvre Mary devait rentrer en le quittant, il aurait moins attribué la prolongation de la promenade au bonheur qu'elle goûtait auprès de lui qu'à la crainte de se retrouver dans cette chambre nue où tout manquait jusqu'à la flamme du foyer. Son père n'y était presque jamais. Qu'aurait-il fait tout seul entre ces murs dépouillés de tout ce qu'il avait vu dans un temps plus heureux et n'ayant ni pain, ni charbon, ni tabac? Marguerite venait bien rarement à présent, depuis qu'elle chantait en public, et la bonne Alice était restée chez sa belle-sœur. Mary était donc seule la plupart du temps en face de leur misère, et quand par hasard Burton se trouvait là, peut-être était-ce encore plus triste. Presque toujours silencieux, continuellement aigri, la moindre observation l'exaspérait au point qu'un jour, lui si bon pour sa fille, il en vint à la frapper dans un moment de colère. Il s'était enfui honteux de lui-même, laissant Mary en proie à la plus vive agitation. La pauvre enfant pensait à sa mère, à tout ce qu'elle avait à souffrir, et dans son amertume, elle eût quitté la maison pour toujours, si Mr. Carson se fût trouvé là pour l'emmener. Mais peu à peu, le souvenir des bontés de son père lui revint au cœur. Il était si malheureux. Et puis, n'avait-elle pas provoqué son impatience par quelques paroles trop vives? Son père revint. Elle avait l'air si sérieux, tant elle était émue, qu'il ne savait comment faire pour lui dire ce qui le ramenait près d'elle. Enfin, surmontant toute faiblesse. « Mary, lui dit-il, je ne crains pas d'avouer que j'ai du chagrin de t'avoir battue. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Ce n'est pas que tu m'avais bien un peu fâché, mais c'est égal. J'ai eu tort, et jamais, je te le jure, je ne te toucherai du doigt. » Elle se précipita tout en larmes dans les bras de son père, lui avoua sa faute, exprima son repentir, et tout fut oublié. Ce fut, comme il l'avait promis, la seule fois que Burton leva la main sur sa fille. Mais il se fâchait souvent, et Mary préférait sa colère à son farouche silence, quand, assis près de la cheminée par habitude, il fumait ou mâchait de l'opium, et que dans l'ombre une main s'avançait par la porte entr'ouverte et l'appelait d'un signe furtif. Il se levait alors et suivait l'inconnu. D'étranges figures passaient devant la fenêtre, dont le regard étincelant poursuivait Mary dans ses rêves. Et plusieurs fois pendant la nuit, elle entendit des voix d'hommes qui, de la chambre basse, arrivaient jusqu'à elle, et dont l'accent, bien que voilé, témoignait de la vive ardeur que chacun apportait dans ses discours. C'étaient des membres de l'association des métiers, qui, poussés par le besoin et complètement désespérés, n'attendaient qu'un signal pour agir. Un soir que Mary s'efforçait d'échapper aux terreurs qui pesaient sur son âme, en songeant à la félicité qui l'attendait un jour, son père la tira brusquement de sa rêverie en lui demandant à quelle époque elle avait vu Jane Wilson. À la manière dont il lui fit cette question, elle comprit qu'elle savait la négligence dont elle avait été coupable envers la pauvre veuve. Et après avoir été vivement grondée pour cette faute et avoir reçu l'ordre formel d'aller chez Jeanne le lendemain, elle s'arrangea pour faire cette visite à l'heure où James serait à son atelier, afin d'être sûre de ne pas le rencontrer chez sa mère. L'aspect de la maison qu'habitait Jeanne était bien différent de ce qu'il était jadis. La porte, ouverte autrefois, restait close, et les plantes qui garnissaient la muraille et encadraient les fenêtres accusaient l'abandon où elles étaient restées depuis la mort de celui qui les aimait. Alice tricotait près du feu, et Mistress Wilson, qui allait et venait rangeant la vaisselle et tout ce qui avait servi au dîner, reçut Mary d'un air froid et contraint. « Est-ce bien toi ? » s'écria-t-elle d'une voix sèche. « Qui l'aurait jamais cru ? Nous pensions que tu nous avais oubliés, et James se demandait quelquefois s'il pourrait te reconnaître. » Le malheur avait aigri la pauvre femme, qui, profondément blessée par l'indifférence de Mary, tâchait de rendre ses paroles plus piquantes en les faisant passer par la bouche de son fils. Mary comprenait tous ses torts, et, ne trouvant rien à dire qui pût justifier sa conduite, elle se tourna vers Alice et lui adressa la parole, tandis que l'excellente fille cherchait à rattraper sa pelote de laine que, dans sa joie de revoir son ancienne voisine, elle avait laissée tomber et qui roulait sous la table et sous les chaises, en mêlant ses fils. « Parle plus haut si tu veux qu'elle t'entende !» reprit Jeanne, toujours d'un air piqué. « Elle est sourde comme un pot. Je te l'aurais dit tout de suite, si je m'étais rappelé combien il y avait de temps que tu n'étais venu la voir. »« Oui, chère petite, j'entends un peu dur à présent, » dit la bonne Alice, qui avait compris par les yeux ce que disait sa belle-sœur. « C'est le commencement de la fin, » ajouta-t-elle doucement.
« Voulez-vous bien vous taire et ne pas dire ces choses-là ? » cria Jeanne. « Comme si nous n'avions pas assez de morts dans la famille sans nous en prédire d'autres. »
Et se couvrant la figure avec son tablier, la pauvre veuve se mit à sangloter.
« Un si bon mari !» continua-t-elle, après quelques minutes, en regardant Mary avec des yeux pleins de larmes. « Personne ne peut savoir ce que j'ai perdu en lui. Quand Dieu rappela mes pauvres petits, je croyais qu'il m'avait tout ôté. Je ne pensais pas que Georges mourrait aussi. » Et je n'aurais jamais cru que je pourrais vivre sans lui. Pourtant, je suis encore là. Et mon pauvre Georges. »
Elle s'interrompit de nouveau pour pleurer.
« Tu ne sais pas, » reprit-elle, « la triste créature que je faisais quand il m'a prise pour femme. Lui, un si beau garçon. Jem n'est seulement rien auprès de son père à son âge. Et qu'est-ce que j'avais donc pour être choisi par lui? Je n'étais pas mal avant mon accident, mais après... j'étais tout à fait laide. Et Bessie Witter, une jolie fille. Madame Carson, d'à présent, aurait donné ses yeux pour lui. Elle qu'on disait belle, quoique sa figure ne me plût pas du tout. Et Carson n'était pas si au-dessus d'elle, eux qui aujourd'hui sont si forts au-dessus de nous. »
Mary ne put s'empêcher de rougir. Elle aurait bien voulu que Jeanne continuât à lui parler du père et de la mère de son adorateur. Mais elle n'osa pas le lui demander, et Mistress Wilson en revint à ses souvenirs.
« Avec ça, que j'étais sotte comme une oie et ne savais rien du ménage, » poursuivit-elle. « Je travaillais à la manufacture depuis l'âge de 5 ans, et je ne me doutais guère de ce que c'était que nettoyer, faire la cuisine et le reste, si bien que je laissais brûler les pommes de terre, que c'était une pâtée noire et une vraie infection. Georges ne disait rien tant il avait de douceur. Mais je pleurais de bon cœur en le voyant au pain sec, parce que j'étais si bête.
Mon père dit toujours qu'il n'aime pas de voir les filles dans les manufactures, interrompit Mary.
Et il a bien raison, reprit la veuve, sans compter qu'après qu'elles sont mariées, ça ne vaut pas mieux non plus. Je connais bien 10 ménages où l'homme s'en va au cabaret parce que la femme travaille dans les fabriques. De bonnes créatures pourtant, quoiqu'elles mettent leurs petits en nourrice et que leur maison en soit toujours par trop sale. N'est-ce pas là bien tentant pour un mari, quand à côté on a le café où tout brille, avec un bon feu qui égaye, et des camarades pour vous distraire ?
« Je voudrais bien, » dit Alice, qui avait saisi le sens de la conversation, « que la reine fût là pour l'entendre, quand notre Jem parle de ça. Ce n'est pas sa femme à lui qui s'en ira jamais travailler au dehors. »«
C'est au prince Albert que je voudrais en parler, » répondit sa belle-sœur. À cette fin de lui demander comment il trouverait ça, quand il rentre chez lui, de n'y rencontrer personne, et de voir revenir sa femme abîmée de fatigue, et rien dans la maison. La chambre pas balayée, le feu toujours éteint, pas de soupe de fête, ni de viande de cuite. Je parie que, tout prince qu'il est, si sa femme ne le servait pas mieux que ça, il s'en irait au café comme les autres. Alors, pourquoi donc ne fait-il pas une loi contre le travail des femmes dans les manufactures ?
Mary essayait de dire que le prince Albert n'avait pas le droit de faire des lois, pas même la reine, du moins à ce qu'elle croyait.
« Allons donc, » répondit Jeanne, comme si la reine ne les faisait pas toutes, et comme si elle n'était pas forcée d'obéir au prince Albert. Et s'il disait que les femmes n'iront plus travailler dans les fabriques, vous verriez si la reine pourrait dire autrement, et que ça plaise ou non aux autres, il faudrait bien que ce soit.
Jem ne rentre plus guère dans la journée, dit Alice, qui n'avait pas entendu ce dernier trait d'éloquence et dont l'esprit s'arrêtait volontiers sur les talents de son neveu. « Il a inventé quelque chose comme une manivelle ou une rondelle, je ne sais plus bien ce que c'est,
mais son patron l'a nommé contremaître, quoiqu'il renvoie beaucoup de ses ouvriers. Mais Jem, c'est autre chose. Il est sûr d'être conservé. Et comme à présent il gagne de bonnes semaines, je lui dis que bientôt il devra prendre femme. C'est lui qui mérite d'en rencontrer une bonne. »
Mary devint toute rouge, et une expression de mécontentement se répandit sur son visage, bien qu'elle fût heureuse au fond du cœur d'entendre faire l'éloge de son amie d'enfance. Mais Jeanne ne put voir que la figure de la jeune fille et se sentit vivement blessée dans son orgueil de mère. D'ailleurs, elle ne souhaitait pas le moins du monde que son fils se mariât. Sa présence dans la maison était le seul bonheur qui lui resta des anciens jours, et d'avance, elle avait pour la femme qui lui prendrait son fils une jalousie qu'elle ne s'expliquait pas. Toutefois, elle en voulait à Mary de ne pas se montrer plus fière et plus touchée de la préférence que lui accordait Jem, bien qu'elle ne l'eût jamais cru tout à fait digne de lui. Le ressentiment qu'elle éprouvait encore de l'abandon où la jeune fille l'avait laissé depuis son dernier malheur, se joignant à tous ses motifs de rancune, elle résolut d'enlever à Mary cette idée que Jem songeait encore à elle. Et dans cette intention, elle inventa le conte suivant. « Certainement qu'il se mariera, et avant peu encore. » Puis, baissant la voix, comme pour faire une confidence à Mary, mais en réalité pour n'être pas contredite par sa belle-sœur, elle ajouta « Molly Gibson, la fille de la fruitière du coin, apprendra bientôt quelque chose qui ne lui déplaira pas, j'en suis sûre. Il y a longtemps qu'elle fait des yeux de chatte quand Jem vient à passer. Mais Jem supposait que le père Gibson ne donnerait pas sa fille à un simple ouvrier. Pour lors, il attendait. À présent que le voilà contremaître, c'est différent. Et j'ai cru pendant un temps que c'était à toi qu'il pensait. Mais vous n'aviez pas tous les deux ce qu'il faut pour vous convenir. Et ça vaut mieux comme ça. »
Mary fit un violent effort sur elle-même pour cacher son dépit.
« Je désire, dit-elle, qu'il soit heureux avec Molly Gibson. Elle est assurément très jolie. »
Et adroite comme une fée, reprit la veuve. Il faut que j'aille te chercher un couvre-pied qu'elle m'a donné samedi. Tu verras comme c'est beau.
Mary fut enchantée de lui voir quitter la chambre. Elle éprouvait une irritation d'autant plus vive qu'elle ne croyait pas à ses paroles. D'ailleurs, elle voulait causer avec Alice.
Je suis bien triste, dit-elle à cette dernière, de vous voir devenue sourde. Ça vous a donc pris tout d'un coup?
Mon Dieu, oui, je t'avoue que c'est un chagrin, et je prie le Seigneur de m'apprendre à le supporter. C'est un jour que j'étais allé dans les prés chercher une herbe pour le rhume de Jeanne. Tout me semblait triste et vide autour de moi. Je ne pouvais pas deviner ce qui manquait à la prairie, et je finis par trouver que c'était le chant des oiseaux, et par comprendre que je ne l'entendrais plus. J'en ai pleuré de regret. Pourtant, ce doit être pour un bien. Je n'en serai pas moins une consolation pour Jeanne. Quand je ne servirai qu'à être là pour qu'elle ait quelqu'un à gronder, ça la distrait de son chagrin, pendant qu'elle bougonne après moi. Et si mes yeux me sont laissés, je ne serai pas bien à plaindre. Je comprends ce que les gens disent en les voyant parler. »
Jeanne rentra presque aussitôt avec le couvre-pied, dont elle ne se lassa pas de faire admirer les moindres détails à Mary, qui vanta bien haut l'œuvre de sa rivale, et s'en alla en toute hâte, craignant plus que jamais de se trouver avec Jem. Quand elle fut à quelque distance de la maison, elle ralentit son pas et se demanda s'il était vrai qu'il eût vraiment de l'amour pour cette Molly Gibson. Après tout, ça lui était égal. Tout le monde avait l'air de croire qu'il valait trop pour elle. Cependant, on verrait bien un jour qu'on l'avait trouvée assez bonne pour en faire une lady. Et stimulée par cette pensée, elle encouragea les intentions de Mr. Carson plus qu'elle ne l'avait fait jusqu'alors. Quelques semaines après la visite de Mary à la veuve de Wilson, avait lieu un meeting de l'Association des métiers, dans lequel on devait discuter les moyens à prendre pour sortir de la terrible situation où l'on se trouvait alors. Le matin du jour, qui avait été désigné pour la réunion, Burton se leva fort tard. À quoi bon quitter son lit de bonne heure quand on n'a rien à faire, surtout rien à manger? Il se demanda s'il achèterait un peu de viande ou d'opium, se décida pour la dernière de ces deux choses, dont l'usage s'était changé pour lui en un besoin impérieux, et attendit le soir avec une vive impatience. On devait se réunir à 8 heures. Personne ne manqua au rendez-vous. La séance fut remplie par la lecture de lettres nombreuses, récits affreux, pleins d'horribles détails, qu'on envoyait à l'Assemblée de tous les points de l'Angleterre, et qui accrurent encore l'exaspération des uns, le morne désespoir des autres. Si bien que, vers 11 heures, lorsque l'Assemblée se sépara,
la modération relative des membres les moins violents n'avait eu d'autre effet que d'irriter encore plus ceux dont les plans désespérés avaient été repoussés ou du moins ajournés. La pluie qui ce soir-là tombait à torrents n'était pas faite pour relever leur courage et leur rendre l'espoir, à peine si les lanternes sur lesquelles l'eau ruisselait projetaient leur lumière à quelques pas autour d'elles, et dans les rues désertes, on ne voyait que les policemen complètement enveloppés dans leurs manteaux huilés. Burton avait souhaité le bonsoir à tous ses camarades et se dirigeait vers sa demeure, quand un pas léger se fit entendre derrière lui. Le pas devint plus rapide, et la personne qui le suivait, avec l'intention évidente de le rejoindre, lui posa la main sur le bras. Il se retourna et vit dans l'ombre une femme dont le costume autrefois élégant ne disait que trop la profession équivoque. Un chapeau de crêpe jadis rose, une robe de mousseline couverte de boue, un châle de barège, peu fait pour protéger contre cette pluie battante, couvrait à peine la pauvre créature, qui, s'adressant à Burton, le suppliait de l'entendre. Mais répondant par un juron à sa prière, il lui ordonna de s'éloigner au plus vite. Elle insista. « Ne me repoussez pas, » disait-elle d'une voix tremblante. « Ce que j'ai à vous dire est d'une si grande importance. Je suis tout essoufflée. J'étouffe et ne peux pas vous parler. Mais attendez un peu. » Elle porta la main à son côté et respira avec effort. « Je te dis que je ne suis pas l'homme que tu cherches. » Et il accompagna cette phrase des noms les plus odieux. Mais tout à coup frappé du son de voix de cette femme, il la saisit par le bras à son tour, la traîna sous un réverbère, rejeta en arrière le chapeau qui lui cachait une partie du visage, et dans ses grands yeux qu'il implorait, dans cette bouche entr'ouverte qui essayait de balbutier quelques mots suppliants, il reconnut les traits de la malheureuse Esther. C'était bien elle, ressemblant encore à la ravissante créature d'autrefois, mais dont le visage exprimait la honte et la douleur. « Ainsi donc te voilà !» s'écria Burton, les dents serrées. « Ah, c'est toi ! Toi, enfin, que j'ai tant cherché, le soir, au coin des rues et dans les lieux où l'on voit tes pareils. Je savais bien qu'un jour, c'était là que je te trouverais malheureuse. Te souviens-tu du temps où je te le prédisais ? Tu te fâchais alors. Mais peut-être vas-tu dire que je me trompe, que toute cette friperie est un vêtement honnête et qu'on ne voit pas le rouge que tu as sur les joues. Oh, par pitié, John, écoutez-moi, par pitié, par l'amour de Mary. » Elle lui parlait de sa fille, mais ce nom lui rappela sa femme. « Et tu oses la nommer devant moi, et tu me demandes de la pitié, misérable. Ne sais-tu pas qu'elle est morte et que c'est toi qui l'as tuée? Elle t'aimait comme sa propre chair. Ta fuite l'a fait mourir. Si un jour du jugement, elle ne se lève pas pour te désigner comme son assassin, c'est moi qui le ferai pour elle. » Et repoussant avec violence la pauvre créature, il s'éloigna rapidement, laissant la malheureuse au pied du réverbère d'où sa faiblesse l'empêchait de se relever. Un policeman s'approcha d'elle, et, pensant qu'elle était ivre, l'emmena, sans qu'elle en eût conscience, et la fit enfermer pour la nuit. Le surveillant de la geôle, quand il fit sa ronde à moitié endormi, prit les gémissements de la prisonnière pour le délire de l'ivresse. S'il eût écouté ses plaintes, il eût saisi ces mots qu'elle murmurait sans cesse. « Il n'a pas voulu m'entendre. Que faire ? Il faut pourtant l'avertir. Oh, comment la sauver ? Sauver l'enfant de Mary. Empêcher qu'elle ne devienne misérable, comme moi. Elle l'écoute aujourd'hui comme je l'écoutais jadis. Elle l'aime comme j'aimais. Et sa fin serait la mienne. Comment faire ? Qu'il aime assez pour veiller sur elle et pour la protéger. Dieu la préserve-tu mal ? Oh, je ne veux pas prier pour elle. Ma prière ne serait pas entendue. Elle lui porterait malheur. Mais qui donc la sauvera, puisque son père ne veut pas m'écouter ?» Le lendemain, elle comparaissait à New Bailey. Le délit de vagabondage et de débauche était flagrant. Elle fut condamnée à un mois de prison. Que de choses pouvaient arriver pendant ce laps de temps.